Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Restez, venez de nous voir. On va avoir d'autres choses aussi pour vous. C'est la dernière de la saison. Ouais. Jimmy Roy, si le Dieu le veut bien, va être présent. Notre Grégory Charles à nous. Oui, le mélomane qui ne parle jamais de musique.
Jamais.
C'est parfait. Merci Alexandre Bellin. Merci JP Cable. Merci Théo. Elle sait pour cette saison aussi extraordinaire. Merci oui. Winnie. Merci encore Eric Poulin.
Yes, merci sir. Guillaume.
Et je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de CJMD. Bye bye. La bulle immobilière suit. C'est eux autres les spécialistes.
Salut, c'est Pierre-Marc de Saint-Henri. J'ai gagné 1200 piastres au bingo de CJMD.
Il y a un petit nouveau dans les gins québécois.
Le fou gin.
Un gin tout en fraîcheur au concombre. Qui ne laisse personne indifférent. À la SAQ.
Complètement fou.
Un concombre.
Donne voiture, MCG Automobile la rachète. T'appelles au 418-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux lévisiens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté.
MCG Auto.
418-564-5352.
Stéphanie travaille sur mon chantier. C'est une travailleuse de la construction. Mais c'est aussi la blonde de Mathéo, la mère de Noah, la fille de Normand et Lucie, la petite fille de Yolande et Maurice, et la meilleure amie de Catherine. Si elle devait tomber du toit où elle travaille, ce sont toutes ces Stéphanies qui tomberaient avec elle.
Au travail, votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches et pour tous ceux qui vous aiment. Employeurs, travailleuses et travailleurs, identifions les risques et agissons ensemble pour les éliminer. Un message de la CNESST.
Total RC, c'est la référence en vente et réparation de véhicules téléguidés à Québec et Lévis. Vendeurs passionnés, expérimentés et professionnels qui feront la différence pour bien cibler vos besoins. De tout en matière de téléguidés pour les petits et les plus grands. Total RC, 418-903-3578.
As-tu déjà essayé ça, un beau bean bag? Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un, haricots.ca.
Hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CJMD, il est trop dynamique.
What? What, dude? What the? Ah!
Le bingo de CJMD, tous les dimanches, 15h.
3, 2, 1.
Ready for takeoff.
Let's go!
La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions et des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
969 FM.
étiez à l'écoute de La Sauce. Bienvenue à notre 9e saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Comment ça va, Sylvie?
Ça va super bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, Sylvie, aujourd'hui, on reçoit une spécialiste. Puis, pour vrai, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations qui vont être ultra pertinentes. L'évaluation municipale, ça dit-tu quelque chose?
Ben oui, évidemment. Puis moi, ce que j'aime là, dans l'évaluation municipale, c'est qu'il y a tellement différentes façons de penser. Tu sais, autant la personne qui se base là-dessus à tout prix pour dire c'est ça la valeur, tu sais, la vieille mentalité un peu, mais il y en a qui traîne encore malgré nous. Il y a une question d'ego aussi. Tu sais, on en parlait en pré-entrevue, mais moi, j'aime ça quand même que mon évaluation municipale soit élevée dans mes propriétés, mais je sais que c'est pas nécessairement bon. On paye plus de taxes. Donc, c'est ça que ça me dit, là. Donc, aujourd'hui, d'un peu challenger tout ça. Toi, qu'est-ce que ça dit de bon, ce sujet-là?
Ben, écoute, moi, des évaluations municipales, là, c'est une ligne directrice. Puis, tu sais, on en voit. Puis, tu dis des vieilles pensées. Puis, il faut faire attention, là, parce que des jeunes acheteurs qui rentrent sur le marché, qui ne connaissent pas le marché immobilier, puis ça va être un des seuls indicateurs qu'ils vont connaître, qu'ils vont vouloir se baser beaucoup là-dessus. Fait qu'il faut faire attention. Puis aujourd'hui, on va avoir une spécialiste qui est Roxane Carrier, évaluateur agréée, vice-présidente chez GDA Services Immobiliers. Bienvenue.
Merci. Bienvenue. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. D'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère, comment est venu l'immobilier dans ta vie, l'évaluation, dans le fond, l'évaluation ben, j'allais dire municipal, mais là, c'est pas ça le sujet.
L'évaluation
agréée, dans le fond. Comment c'est venu à toi dans ta vie, ça?
C'est certain que c'est un métier qui n'est pas très connu, évaluateur agréé. J'ai toujours eu une passion là, pour l'immobilier et les chiffres. Par contre, là, c'est évident là, que quand j'étais au secondaire, c'est pas un métier que je connaissais. C'est venu un peu plus tard au cégep. Je faisais ma technique en comptabilité, puis j'avais une professeure qui... Elle, son conjoint était évaluateur agréé, puis c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on pouvait combiner ma passion de l'immobilier et les chiffres. Donc, j'ai poursuivi par la suite mon parcours à l'université en gestion urbaine immobilière pour aller chercher mon titre d'évaluateur agréé.
Puis, tu disais là, justement que l'évaluation agréée fait partie d'un ordre professionnel.
Oui, absolument. Donc, je suis membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Là, ça fait partie là, des ordres professionnels régis par l'Office des professions.
Puis, un ordre professionnel, par exemple, pour l'évaluateur agréé ou le parcours d'un évaluateur agréé typique, ça peut ressembler à quoi? On va au cégep en ressources humaines, on va en sciences pures. C'est quoi le parcours traditionnel pour s'y rendre?
Le parcours traditionnel au niveau du cégep, ça peut être autant les sciences nature que les sciences humaines. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'important, c'est d'avoir ses mathématiques. Et puis, par la suite, on poursuit au bac en administration, soit à l'Université Laval avec une concentration en gestion urbaine immobilière, avant de pouvoir accéder au stage régi par l'Ordre des évaluateurs ou à savoir également que le même profil se donne à l'UQAM ainsi qu'à l'UCO.
OK, parfait. Puis quand on débute, est-ce que dans nos études, on a une période qu'on doit faire des stages, etc.?
Oui, absolument. Donc, à l'issue du bac en administration, on a un stage obligatoire de 48 semaines à réaliser avant de pouvoir obtenir son titre. Puis pour obtenir son titre, il faut évidemment passer l'examen d'admission à l'ordre.
Parfait. Puis, au niveau de l'ordre professionnel, dans le fond, c'est un peu qu'est-ce qui vient régir les méthodes de travail, les façons de procéder, etc. Puis, tu sais, on avait parlé aussi hors d'onde. C'est une opinion que vous donnez par rapport à ça. Fait que, tu sais, il y en a qui peuvent être plus justes sur les vraies valeurs. Il y en a qui peuvent être des fois plus flexibles, soit à la baisse ou à la hausse, tout dépendamment des mandats des fois. Mais majoritairement, tout le monde devrait avoir sensiblement la même ligne directrice sur l'opinion, c'est ça?
Exactement. Donc, on est régi par des normes de pratique qui nous fournit un cadre pour notre pratique. Et puis, le rôle de l'évaluateur agréé est de fournir une opinion motivée de la valeur. Donc, quand on dit motivé, bien évidemment, c'est pas comme un comptable qui balance nécessairement à la scène près. Ça reste de l'opinion. Mais essentiellement, si les évaluateurs respectent bien leur nombre de pratiques, on devrait toujours se situer dans un range de plus ou moins 5 à 10 % là, entre les diverses opinions qui sont formulées par des évaluateurs. Pour
moi,
même bien.
Je voudrais savoir, tu es évaluatrice depuis quand, en fait?
Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine de l'évaluation. Ça fait un petit peu moins de temps que j'ai mon titre professionnel, mais dès que j'ai su que je voulais aller dans le domaine d'évaluation, j'ai débuté dans un bureau privé d'évaluation, qui n'est pas celui où je suis actuellement, mais...
Puis tu disais aussi que tu étais une personne qui était très déterminée, une fille qui avait genre la passion des chiffres, puis que tu sais, tu savais exactement vers où que tu t'en allais. Puis tu sais, 10 ans plus tard, justement, tu te retrouves associé avec GDA Services Immobiliers. Puis tu sais, nous, on avait reçu Sylvain Gilbert aussi à notre émission, puis ça avait été vraiment une super belle entrevue. Qu'est-ce que moi, j'aime de recevoir des évaluateurs agréés, c'est que vous savez exactement tout ce qui se passe dans les environs de la région de Québec, autant sur la nouvelle construction que le marché de la revente, que le commercial, que l'industriel. Puis j'aimerais ça que tu puisses me parler aussi un petit peu plus de GDA. Tu sais, parce que tu me disais que c'est un one-stop shop, là, tu sais, où est-ce que vous avez tous les services, mais c'est quoi l'éventail, puis c'est quoi l'histoire de GDA?
Oui, donc GDA Services Immobiliers a été fondé en 2013 à l'origine par mon associé actuel qui est Louis Deschaines, qui est le président, et Steve Gilbert.
Ouais, j'ai dit Sylvain, je m'excuse, c'est Steve.
Steve Gilbert, donc, qui était président, mais qui est toujours avec nous aujourd'hui en tant que conseiller et consultant stratégique, bien que plus président. Et donc, la philosophie chez GDA, c'est, comme on disait, un one-stop shop, donc d'où le service immobilier intégré. Notre objectif est de pouvoir desservir notre clientèle de A à Z dans tout le cycle de vie d'un projet immobilier. Donc, dans ce contexte-là, on offre évidemment les services en amont, comme les études de marché pour n'importe quel projet immobilier. Par la suite, on a une équipe qui est dédiée au contrôle de coûts. Donc, pour toute la période de construction d'un projet, on peut agir comme étant les yeux de la banque ou des prêteurs. Par la suite, on a évidemment tout ce qui est évaluation plus conventionnelle à toute fin. Donc, fin de financement, fin de litige, fin, tout, vraiment là, toutes les fins, partage de patrimoine, tout acquisition, vente. Puis par la suite, on a tout autre service connexe lié à l'immobilier. Donc, on a de l'évaluation d'équipement qui peut intervenir dans une évaluation de valeur marchande conventionnelle. Si ça va mal, on est là aussi pour du litige. On a des services en expropriation. On a également des services pour l'évaluation aux fins de valeur assurable ainsi que des fonds de prévoyance, ce qui est plus au niveau des copropriétés. Et mon rôle à moi, principalement dans l'entreprise, c'est tout ce qui est litige et contestation d'évaluation municipale.
Parce que ça, tu es amené à te déplacer souvent à la cour pour témoigner?
Oui, quand même régulièrement. C'est certain que notre objectif n'est pas nécessairement d'y aller à toutes les semaines, mais on est là vraiment pour défendre les causes de nos clients auxquelles on croit. Donc, si on juge opportun d'aller jusqu'au tribunal, on y va, on se gêne pas. Donc, cet automne, j'avais deux causes qui étaient quand même assez longue. Il y en avait une que c'était 4 jours au tribunal, puis l'autre, elle s'est étirée dans le temps. Elle va se terminer en décembre, mais si on avait fait la cause bout à bout, on aurait été 3 semaines au tribunal.
Wow, quand même, là. Puis est-ce que c'est des dossiers récurrents, ça? Est-ce que c'est courant d'avoir des 3 semaines? Généralement, non, là. Ça va être des dossiers très spécifiques.
Oui, exactement. Donc, dans ce cas-ci, là, c'était vraiment parce qu'il y avait plusieurs experts avec plusieurs problématiques qui devaient intervenir. Donc, on avait des experts en urbanisme, des experts ingénieur en environnement pour des aspects de contamination, les experts évaluateurs, en plus des avocats. Mais un dossier qu'on va qualifier de plus conventionnel où la question en litige est essentiellement strictement d'évaluation, une cause peut être entre 2 et 4 jours au tribunal.
OK, quand même. Puis au niveau des valeurs, tu sais, une des spécialités des évaluateurs agréés, c'est de comprendre, puis de connaître, puis de posséder de la data. Est-ce que c'est un peu ça?
Oui, effectivement, je dirais que c'est sûr que la donnée, c'est le nerf de la guerre en évaluation. Très difficile de procéder à une évaluation lorsqu'on ne possède pas de données sur le marché. Donc, on essaie d'être toujours le plus connecté possible sur la donnée auprès des intervenants ou des autres fournisseurs là, de données. Donc, on est toujours en communication, que ce soit avec nos clients, qui sont des précieux alliés lorsqu'on procède à des évaluations, ou même, on a quand même un gros... On n'est pas beaucoup d'évaluateurs agréés au Québec. On est environ 1000, donc on a quand même un esprit de collaboration puis de famille, même avec d'autres bureaux d'évaluation où est-ce qu'on peut discuter avec d'autres évaluateurs.
Quand même, puis vous prenez quand même une bonne part du marché. Vous avez 37 employés chez GDA quand même. 30...
Oui, effectivement. Quand on même. Est 37 employés chez GDA, donc on est l'un des plus gros cabinets de la région de Québec en expertise privée.
Ce que j'aime, moi, c'est que vous donnez beaucoup d'informations aussi. Là. On peut s'inscrire à l'infolette, avoir accès à vos indicateurs. On en parlait, c'est un marché de chiffres.
Exact.
Et vous en rendez disponible. Moi, ça, je trouve ça génial. Là.
Exact. Puis, tu sais, nous, comme courtier immobilier, on utilise aussi vos indicateurs, là, autant pour le multilogement que le commercial. On peut avoir des TGA actifs. On peut voir de quelle façon que les différents marchés vont pouvoir bouger. Puis là, ben c'est sûr que dans un marché ultra changeant comme aujourd'hui, d'être connecté avec des évaluateurs agréés, pour nous, c'est super important parce que les valeurs de mars ne sont plus les mêmes valeurs aujourd'hui, autant pour les institutions financières que pour les financements, que pour les refinancements, que pour les investisseurs, que pour les vendeurs, les acheteurs. Il y a une pression qui se fait énormément sur les valeurs des propriétés. Puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler aussi là, parce que tu sais, Sylvie a de l'investissement immobilier, puis tu sais, on avait parlé du TGA, puis on disait ah, mais c'est quoi un TGA, etc. Si admettons, on voudrait juste mettre les paramètres de base pour que les gens puissent comprendre c'est quoi un TGA, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer rapidement?
On va essayer. Donc, TGA, là, c'est l'abréviation dans un premier temps de taux global d'actualisation. C'est un paramètre là, qui, lorsqu'on regarde une transaction, on met en relation le prix de vente avec les revenus nets qu'on va dire normalisés qu'ils peuvent générer. Qu'est-ce que normaliser? Normaliser, c'est pour une année typique combien de revenus on peut espérer dégager du bien immobilier en question. Donc, en fait, c'est vraiment une relation entre, une division entre le revenu net normalisé et le prix de vente duquel on peut dégager donc des taux globaux d'actualisation issus de transactions dans le marché. Et si on regardait ça d'un point de vue très théorique, en fait, le taux global d'actualisation, c'est une mesure du risque immobilier perçu par rapport à un bien spécifique. Et puis, il y a plusieurs composantes à l'intérieur de ça qui rentrent, dont les rendements espérés, les taux d'intérêt en vigueur. Donc, il y a plusieurs composantes là, quand on regarde ça d'un point de vue théorique. Quand on regarde ça d'un point de vue pratique, on regarde une ce qu'on appelle, nous, une comparable, donc qui est une vente de biens immobiliers, ben je ramène ça encore une fois, c'est juste une relation revenu net normalisé divisé par prix de vente.
Fait que si je comprends bien, ça nous aide, c'est un indicateur pour voir si on fait un bon investissement ou non, si je m'apprête à acheter, mettons.
Exact.
Ça peut mesurer le risque, en fait, qui est lié au bien immobilier qu'on achète. Donc, évidemment, plus un TGA est élevé, dans des créneaux de marché, par exemple, qui sont beaucoup plus risqués. On va parler, disons, de l'hôtellerie, là, surtout depuis la pandémie. Bon, l'hôtellerie, c'est quand même un créneau immobilier qui est plus risqué. Bien, à ce moment-là, on peut observer des TGA peut-être à 8 % à 7,5-8 % facilement. Alors que quand on regarde des créneaux de marché qui apportent un peu plus de stabilité ou pour lesquels il y a un engouement très fort, où est-ce que les possibilités de rendement sont élevées, par exemple, au niveau industriel, où les TGA sont fortement en baisse dans la région de Québec, ben là, à ce moment-là, on observe peut-être des 5,25 de TGA, par exemple.
Puis là, tu sais, qu'est-ce qui est super important pour mettre un chiffre? Admettons qu'on a un TGA de 5 %. Ben, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut un genre de rendement sur le revenu net qu'on va avoir, qui va représenter 5 %. Puis il faut faire attention aussi parce que plusieurs investisseurs vont calculer 20 fois le revenu, mais souvent, ils vont parler 20 fois le revenu brut. Il faut toujours ramener ça sur le revenu net, qui est le plus important. Fait que, tu sais, 5 % de TGA peut représenter, par exemple, 20 fois le revenu net. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est 1 divisé par 5 qui va donner 20 %. C'est 20 fois les revenus nets. Puis, tu sais, quand on est dans le jargon, dans le milieu, les gens vont toujours ramener un TGA sur un revenu brut, mais il faut vraiment retirer complètement les dépenses. Tu dois voir ça quand même assez régulièrement.
Oui, effectivement. C'est certain que ce qu'on va appeler le MRB, le multiplicateur de revenus bruts, est un paramètre qui revient très régulièrement dans le marché, surtout du multirésidentiel. Donc, c'est un paramètre là, qui est beaucoup utilisé par les intervenants du marché, les investisseurs. On le regarde également parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est utilisé par les intervenants, mais j'ai plutôt tendance à regarder même les revenus nets parce que je trouve qu'il manque beaucoup de composantes là, lorsqu'on regarde seulement les multiplicateurs de revenus bruts. Parce que oui, un revenu brut, c'est ce que la propriété peut générer en termes de revenus, mais je pense que c'est important de s'attarder au niveau des dépenses également. Puis, est-ce qu'il y a des possibilités d'optimisation au niveau des dépenses, au niveau du coût en énergie, au niveau des taxes? Est-ce que la valeur municipale duquel découle la taxation est le juste reflet de la valeur réelle de la propriété? Je pense que c'est important là, de s'attarder aux dépenses parce que les dépenses aussi, c'est là qu'on peut évaluer s'il y a un potentiel d'optimisation des revenus.
Exact. Puis, tu sais, les ratios puis les pourcentages de dépenses vont venir justement vous donner des indicateurs de performance sur votre immeuble. Puis, tu sais, au niveau du revenu net, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a aussi trois types de revenus nets. Il y a le revenu net qui est affiché sur la fiche descriptive, qui habituellement, tu sais, par exemple, un courtier va vendre un immeuble à revenu, ben, il va seulement mettre les taxes municipales puis les taxes scolaires. Mm-hmm. Fait que le revenu net prend pas en compte l'entretien, la gestion, les assurances, l'hydroélectricité parce que souvent un compteur de service, etc. Le déneigement, la pelouse, c'est tous des éléments qui sont pas affectés. Il faut faire attention aussi de ne pas regarder les revenus affichés. Puis après ça, mais il y a le revenu réel, que là, tu sais, le propriétaire, ben lui, il déneige par lui-même, le propriétaire fait sa tondeuse par lui-même, le propriétaire fait son entretien par lui-même, ben l'institution financière va pas calculer ça, va vouloir mettre des valeurs et des pourcentages par rapport à ça, fait que ça aussi, il faut faire attention. Puis il y a aussi la version normalisée. Puis là, la version normalisée, ben là, ça peut être la version où ce qu'on vient cruncher les chiffres pour dire, écoute, nos dépenses sont vraiment trop élevées ou les dépenses sont à la limite de qu'est-ce que les institutions financières vont prendre en considération. Fait que, tu sais, c'est un milieu de chiffres. On peut faire parler les chiffres de n'importe quelle façon, mais il faut avoir des professionnels comme toi pour nous orienter puis dire, ça, c'est des bons indicateurs puis ça, c'est trop loin. Est-ce que c'est exact?
Oui, exact. Donc, on est les yeux aussi du marché, autant les yeux des intervenants que les yeux des institutions financières. Donc, notre rôle, c'est évidemment d'analyser chaque propriété de façon individuelle, puis de s'assurer que les états financiers qui nous sont partagés et présentés sont représentatifs d'une réalité du marché également, puis effectivement de normaliser aux besoins. Parce que, comme on le mentionnait, ben c'est certain que si le propriétaire est un petit propriétaire puis qui assure la gestion par lui-même, mais nous, on vient vraiment normaliser cet aspect-là. On vient attribuer un pourcentage de gestion parce que pour les institutions financières, ben, enfin, on doit toujours, en matière de financement, se mettre dans la position aussi du prêteur de l'institution. Donc, si demain matin, l'institution financière devait reprendre le bien, de quelle façon ce bien-là aussi serait géré? Ben, nécessairement, il ferait appel à un gestionnaire immobilier. C'est pas le directeur de compte qui va aller gérer lui-même la propriété. Ça va être donné en gestion. Donc, on vient vraiment normaliser ces aspects-là, dont la gestion. On parlait aussi, par exemple, de l'énergie. Ben, si on voit que l'énergie qui est dépensée dans cet immeuble-là est vraiment hyper élevée, à ce moment-là, ça va être de comprendre pourquoi. Pourquoi les dépenses en énergie sont aussi élevées? Est-ce que c'est parce que le propriétaire actuel a donné le contrôle à 100% à ses locataires sur le chauffage puis tout le monde chauffe à 30 degrés? Si c'est le cas, peut-être qu'on va donner des conseils aussi sur le site au propriétaire de lui suggérer d'installer des compteurs indépendants puis de rationaliser les coûts d'énergie parce que ça vient jouer évidemment dans sa valeur.
Ben oui, définitivement. Puis, tu sais, l'évaluation agréée se fait en équipe. Vous le faites en équipe chez GDA Services Immobiliers, mais vous le faites aussi en équipe avec des courtiers immobiliers, des intervenants directement du milieu. Tu le disais aussi avec d'autres évaluateurs agréés. Puis, tu sais, ça arrive couramment que des évaluateurs vont nous parler pour nous dire « Hey, Jeff, t'as vendu tel immeuble, t'as affiché tel immeuble, tu veux-tu me parler un peu du contexte, etc. » Parce que, tu sais, faut, oui, analyser des chiffres, mais il faut regarder aussi le contexte du pourquoi. Parce que quand que des motivations différentes, tu sais, les gens vont avoir des besoins de vente, pas nécessairement toujours pour les mêmes besoins. Il y en a que ça va presser, il y en a que c'est des séparations, il y en a que c'est des successions qui vont faire en sorte, ben écoute, nous, on veut vendre rapidement, on veut avoir l'argent, puis on passe à une autre étape. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le beurrier, là. Fait que, tu sais, il faut toujours remettre en contexte aussi, là, par rapport à tout ça, puis de le faire en équipe avec l'équipe de GDA Services Immobiliers ou Roxane Carré, c'est encore mieux. Ben, on va vous contacter par rapport à ça. Ben,
moi, je mange des conseils que tu nous en as déjà donnés, dont, entre autres, faire attention aux dépenses. Moi, j'adore ça. Donc, ça met la table, hein, Jeff? Ça va être vraiment une super émission. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web www.jean-françois.
Tous les jours, c'est Talk Rock and Hip Hop à CJMD 96.9 Lévis.
Le bar L'Extase, la place la plus enivrante en ville. Laisse-toi tenter.
G-Barbecue. Partout, chez vous. Avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement au charbon.
Pour un party clé en main.
Événement
Noël.
En famille. Ou juste entre amis. Réserve maintenant. G-Barbecue.ca. 418-809-6614.
Défi Évasion et sa succursale de Lévis vous offrent 12 jeux d'évasion uniques qui vous feront vivre une expérience inoubliable. En famille, avec des amis, pour des parties de bureau ou même pour une date, Défi Évasion est la destination pour se faire du gros fun. Pour réserver dès maintenant, visitez défi-évasion.com.
Fumée Ninja, c'est du bacon, des choux de bœuf, de la brisquette, des épices et des sauces maison. Pré-cuit au feu de bois, fumé sur bûche d'érable, sous vide, congelé et prêt à être savouré. www.ume.ninja. Commande en ligne, livraison à domicile et services traiteurs différents et gourmands. 418-558-9908.
Pour les résidents de l'ouest de la rive nord de Québec, un détaillant de pneus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pour info, 418-353-2429 ou pneudmr.net.
Électromécanicien.
Supermétal.
Te veut. Prime de 2000 piastres.
Et l'embauche.
Assurance.
Régime de retraite.
Télémédecine.
Jusqu'à 32 $ de l'heure.
Postule à
www.superjobpourtoi.com.
La seule station hip-hop au Québec. Stay tuned
right after this. Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres,
OK, ouais.
On va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Me semble que je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
Pour votre projet de location commerciale, que ce soit à titre de locataire ou de propriétaire, Location BCI Commerciale avec Alex Mignot seront les meilleurs atouts pour dans votre processus de location. Une seule adresse, locationbci.ca ou par téléphone au 418-628-2000. Sylvie, on parlait juste avant la pause avec Roxane Carrier, qui est vice-présidente associée chez GDA Services Immobiliers Intégrés. On a parlé d'un parcours, de son parcours au niveau de l'évaluation. Elle nous a mis un peu la table sur comment ça fonctionnait, mais un des sujets qui est mal compris, puis qu'il y a beaucoup d'éducation, je pense, qui reste à faire, c'est toujours le rôle d'évaluation. Puis j'aimerais ça avoir ton opinion de qu'est-ce que c'est un rôle d'évaluation pour que monsieur, madame, tout le monde puisse mieux l'interpréter puis le comprendre.
Le fameux rôle d'évaluation municipale. Donc, les éléments à apporter à savoir dans un premier temps au sujet du rôle d'évaluation municipale, c'est que les rôles au Québec sont triennaux. Donc, la valeur qui est établie pour un rôle est valable pour 3 années consécutives. Donc, si on parle, par exemple, de la ville de Québec, le rôle en vigueur, c'est un 2022-2024. Donc, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, la valeur qui est inscrite sur votre rôle d'évaluation, elle ne bougera pas, sauf si vous faites des travaux, mais je n'irai pas là tout de suite. Donc, normalement, c'est valable pour 3 années. Ce qu'il faut ensuite savoir, ce qui est très important également, c'est que c'est une valeur qui est dans le passé. Donc, à l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, si le rôle entre en vigueur, par exemple, le 1er juillet 2022, la date de référence au marché, donc la date à laquelle a été évalué le bien immobilier, est toujours 1 an et demi avant la date d'entrée en vigueur. Donc, c'est toujours au 1er juillet d'une année. Donc, dans ce cas-ci, c'est au 1er juillet 2020. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on est rendu à la fin d'un triennal, donc disons qu'on se projette au 31 décembre 2024, mais la valeur qu'est-ce qui est inscrite sur le rôle, elle remonte déjà à 4 ans et demi en arrière. Il peut s'en passer bien des choses dans cet intervalle de temps. Une pandémie, on s'en souhaite pas d'autres. Il peut arriver une hausse substantielle des droits d'intérêt comme on vit actuellement. Il peut arriver plein de choses qui ont une influence sur les valeurs des biens immobiliers.
Puis, en parlant de rôle d'évaluation, puis j'aimerais ça qu'on prenne l'exemple de Lévis, où ce que le rôle d'évaluation va changer au 1er janvier 2023. Ça veut dire que au 31 décembre 2022, tout le monde va prendre une coupe de champagne, puis majoritairement, on va tous gagner 10, 15, 20, 30 000 piastres de valeur sur notre propriété, parce que le lendemain, le rôle d'évaluation change. La réalité est pas là pantoute, là.
Ça dépend pour quel type d'actif, c'est assez variable. Donc, dans le cas de Lévis, où est-ce qu'effectivement le nouveau rôle rentre en vigueur au 1er janvier 2023, à ce moment-là, il faut se dire que la valeur qui va y être inscrite est le reflet du 1er juillet 2021. Au 1er juillet 2021, si on se replace dans le temps, on était en période...
Pleine pandémie. Plein marché, plein d'emploi.
Exactement, plein marché, plein d'emploi, période de surchauffe immobilière, où est-ce que...
Manque d'inventaire.
Exactement. Donc, ce qui cause parfois de la surenchère, surtout dans le domaine résidentiel et multirésidentiel.
Puis là, tu sais, arrive une période où ce qu'on vient, une période de référence, qui est dans une situation complètement anormale, qui fait en sorte que 18 mois plus tard, il évalue les augmentations des valeurs selon les ventes qui se sont faites dans cette période-là aussi, qui fait en sorte qu'on se retrouve en 2023 peut-être surtaxé par rapport aux conditions de marché actuelles.
Il faut faire une distinction encore là entre la valeur au rôle et la taxation. L'évaluation municipale, ce n'est pas de la taxe, mais...
Définitivement.
Définitivement. Donc, en fait, le rôle... puis là, je déborde un peu sur la fiscalité municipale, là, puis les moyens de financement des villes, mais le rôle d'une ville n'est pas nécessairement de s'enrichir avec les hausses des évaluations municipales. Le rôle d'une ville est de financer et de balancer son budget. Ce qui fait qu'habituellement, lorsqu'on va observer des hausses exponentielles dans... certaines villes, puis là, je sors de Lévis, je vais prendre Montréal en exemple parce que c'est fulgurant. Donc, dans un contexte où les hausses moyennes pour le nouveau rôle de la ville de Montréal, qui est le même triennal que Lévis, on est 30 % puis même jusqu'à 70 % d'augmentation dans le créneau industriel, ben évidemment, ça se répercutera pas à 70 % d'augmentation sur le compte de taxes de ces propriétaires-là. Donc, habituellement, les villes vont venir contrebalancer en réduisant le taux de taxation qui était en vigueur l'année précédente pour limiter, en fait, l'impact des hausses de taxes.
Fait que là, tu sais, on parle de valeur ajustée, dans le fond. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'admettons qu'une propriété est à 300 000. Bien, je donne un exemple. En 2023, la propriété est évaluée à 300 000. L'année 2024, avec le rôle de Lévis, bien, le rôle va demeurer à 300 000. Par contre, les taxes, la valeur ajustée va être de 1 % ou de 3 % qui vont faire en sorte qu'ils vont facturer sur 303 000, par exemple. Fait que là, ils vont être, 309 000 plutôt. Fait qu'ils vont être en mesure d'aller chercher un petit peu plus de revenus. Puis je pense que 85-90 % des revenus des municipalités proviennent aussi des taxes qui viennent collecter sur les immeubles ou les biens immobiliers. Est-ce que je me trompe?
Non, et j'ai envie de dire un peu malheureusement. Donc, c'est quand même un gros enjeu en ce moment, là, les sources de diversification des revenus qui financent les budgets municipaux. Donc, au Québec, on est, comme le mentionnait Jeff, beaucoup, beaucoup tributaires des revenus qui sont issus des taxes et des taxes liées à l'immobilier, là, que ce soit les taxes foncières ou encore même les taxes de bienvenue, les choses comme ça. Alors qu'on observe un meilleur balancement là, dans d'autres provinces ou dans d'autres pays parce qu'ils misent davantage, par exemple, sur les concepts d'utilisateur-payeur. Donc, il va y avoir des compteurs d'eau, par exemple, plutôt que tout le monde utilise l'eau comme ils veulent. Il va y avoir du...
Autant qu'on avait l'inverse, qu'on avait eu des compteurs d'eau auparavant, que les compteurs d'eau ont été... retranché, là, puis que, tu sais, finalement, ça faisait partie des services municipaux. Puis ça peut avoir une tendance où ils vont réintégrer les comptes de taxes d'eau?
Oui, effectivement, là, ça pourrait arriver. Il y a encore des municipalités au Québec qui en ont des compteurs d'eau. On a aussi d'autres moyens de financement qui existent ailleurs, dont ce qu'on va appeler la taxe kilométrique, donc qui sert à financer, entre autres, l'entretien des routes et tout ça. Donc, on mesure en fait le nombre de kilomètres qui est parcouru par un individu puis est taxé en conséquence.
Ah ouais, Colin. On le disait, il y a un devoir d'éducation à faire. Et moi, honnêtement, j'ai déjà appris des choses. Là. C'est déjà le fait que c'est pas les mêmes bases de référence en termes d'années, qu'on soit à Lévis, Québec. Tu sais, quand on magasine, c'est pas rare qu'on va se promener un peu dans les régions, un rayon plus large. Et là, déjà, il y a ce facteur-là. Puis honnêtement, au risque de paraître idiote, moi, dans ma tête, quand je regardais mon évaluation municipale, je pensais que c'était une moyenne. Moi, je me disais, on est en 2022, 2024, ils doivent évaluer en 2023 à peu près, grosso modo, qu'est-ce que ma résidence va valoir. Fait que tu vois, je viens d'apprendre quelque chose, qu'on recule de 18 mois. Moi, je trouve ça vraiment hot. On pourrait tout de suite parler, j'aimerais faire une parenthèse par rapport à ça. Moi, je reçois mon compte de taxes et c'est quoi un peu les conseils que tu peux donner aux gens? C'est quand qu'on devrait contester? C'est quand qu'on devrait pas contester? C'est quoi un peu qu'il faut prendre en compte pour baser notre décision?
Il y a plusieurs éléments là, qu'on doit regarder lorsque vient le temps de passer à contester son évaluation municipale. Puis, ça dépend aussi des objectifs et des volontés de chacun. Je vais donner un exemple. Disons que la propriété elle a fortement augmenté, la valeur inscrite au rôle d'évaluation a fortement augmenté. La personne se questionne, « Ouais, là, ça se pourrait que je paye beaucoup plus de taxes. Est-ce que je devrais contester, pas contester? » Il y a deux éléments. Le premier élément, souvent, ce que je veux poser comme question à la personne, c'est quoi vos objectifs dans les trois prochaines années parce que le rôle est en vigueur pendant 3 ans. Donc, est-ce que vous pensez à vendre? Est-ce que vous pensez conserver votre propriété? C'est bien évident que si la personne pense conserver sa propriété, ben oui, ça peut valoir la peine, encore une fois, de pousser le processus un petit peu plus loin pour venir diminuer son fardeau de taxes. Puis sinon, ben peut-être que ça vaut pas la peine si on pense vendre sa propriété prochainement. De toute façon, ce sera plus nous qui va absorber le fardeau de taxes. Surtout, en fait, les éléments à regarder, c'est, je dirais, ben de s'assurer que la valeur qui est inscrite au rôle est le reflet de la valeur réelle. Puis pour ce faire, on peut faire appel là à des professionnels du marché pour bien se positionner par rapport à ça. Donc, c'est possible là, d'appeler justement un évaluateur agréé, par exemple. Puis, ce que je conseille aussi, là, c'est tout propriétaire a le droit d'aller consulter ce qu'on va appeler le dossier de propriété à la ville. Donc, chaque propriétaire a le droit de faire une demande à la municipalité pour consulter qu'est-ce qui a été fait dans son dossier, quelles sont les informations qu'il détient au sujet de sa propriété, est-ce que les informations qui y sont inscrites sont à jour et valables. Ça peut arriver là, qu'il y a des erreurs là, dans des dossiers de propriété. Par la suite, c'est de s'informer justement dans ce même dossier de propriété, ça a été quoi la méthode d'évaluation qui a été retenue. Est-ce que c'est une méthode du coût? Est-ce que c'est une méthode de comparaison? Si c'est une méthode de comparaison, quelles ventes comparables ont été utilisées pour établir la valeur? En moyenne, les villes vont utiliser à peu près 4-5 propriétés comparables pour établir la valeur qui va être inscrite au rôle. Est-ce que lorsqu'on regarde ces propriétés comparables-là, on regarde leur contexte, est-ce que c'est des comparables qui sont, on pourrait qualifier de valables, est-ce qu'il y a des contextes particuliers où il y a une vente qui sort du lot qui fait que ça tire la valeur de la propriété à la hausse? C'est tous des éléments là qu'il faut regarder là, bien évidemment. Puis si on n'a pas le temps de le faire, ben encore une fois, on peut faire appel à un professionnel qui va se faire un plaisir d'apporter sa touche puis de regarder le dossier de propriété avec un œil critique.
Puis, tu sais, une évaluation de propriété municipale, tu sais, une contestation, est-ce que on peut penser que ça peut coûter 1 500? Est-ce que ça coûte 400? Que, tu sais, pour donner une ligne directrice, est-ce que on se retrouve plus proche d'une évaluation standard environ à 500 ou 700 ou on se retrouve plus à des frais de 2 000?
Il y a deux volets. Il y a le volet, on va dire, qui est légal, là, auquel on n'échappe pas, parce qu'en fait, les villes ont ce qu'on va appeler des tickets modérateurs là, en matière de contestation d'évaluation municipale pour pas que quelqu'un conteste de façon systématique ses propriétés. Donc, puis, il y a une échelle, en fait. Là. Donc, par exemple, là, je pense à la Ville de Québec, le plus petit ticket modérateur est entre 50 et 75. Donc, juste pour donner droit au dépôt d'une demande de révision pour que l'évaluateur municipal regarde le dossier et le révise. Puis, tout dépendant des valeurs des propriétés, là, ça peut monter jusqu'à 1 000 là, le dépôt d'une demande de contestation. Ça, c'est vraiment comme le ticket modérateur simplement des villes. Lorsqu'on fait appel à un professionnel en plus, là, évidemment, il y a des frais qui s'ajoutent. Nous, notre modèle d'affaires, c'est que on va produire une analyse préliminaire, donc on va vraiment se pencher sur le dossier, on va regarder et on va facturer ce qu'on va appeler des frais de base qui, selon la nature de la propriété, va tourner autour de 300 à 500 en moyenne. Puis, par la suite, lorsqu'on juge là, à propos de déposer officiellement une demande de révision puis qu'on on amène plus loin le processus, à ce moment-là, nous, notre tarification est à pourcentage. En pourcentage des gains de taxation foncière. Donc, on absorbe une partie du risque.
Ouais, c'est bien.
Donc, si on va pas chercher de gains, ben à ce moment-là, c'est nous qui avons absorbé l'entièreté du risque. Puis le propriétaire a payé uniquement pour son analyse préliminaire à savoir s'il y avait quelque chose à faire ou pas selon notre
jugement. Ça, c'est génial parce que ça démontre que quand on conteste, vous pensez vraiment avoir des chances de gagner et de faire un changement, sinon vous le feriez
puis
pas.
Dans, puis c'est génial. Puis dans l'étude préliminaire, ben, c'est là que vous avez vraiment la bonne ligne directrice à savoir si c'est contestable ou pas non plus. Là.
Exactement. Donc, on va analyser le dossier de propriété, on va aller visiter la propriété idéalement, on va poser beaucoup de questions aussi au propriétaire. Pourquoi il pense, lui, que sa valeur qui est inscrite au rôle n'est pas représentative? Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Puis, les villes n'ont pas des yeux 24/7 non plus sur vos biens immobiliers. Donc.
Puis, les trois mêmes évaluateurs à l'intérieur de la ville peuvent avoir trois opinions motivées différentes aussi, là.
Aussi. Effectivement, parce que chaque évaluateur est responsable là, dans les grandes villes d'un bassin de propriétés. Donc, habituellement, au niveau commercial, par exemple, c'est une seule personne qui fait tout l'industriel, mais c'est certain que quand on tombe au résidentiel, le bassin résidentiel est tellement important qu'on a environ 5-6 évaluateurs agréés différents qui vont procéder à une évaluation de masse de tout l'ensemble des propriétés résidentielles par secteur. Habituellement, c'est divisé par secteur.
Fait que si je reviens à ma question tantôt, mettons au niveau des critères, tu sais, les cas les plus flagrants, mettons, de que vous gagnez votre cause, là, que vous voyez ça, puis vous dites j'ai demandé le dossier à la ville, puis je me rends compte de telle erreur ou est-ce que tu as quelques exemples à nous partager?
Des cas flagrants, écoutez.
Par exemple, les périodes de référence de Lévis en juillet 2021, ben, pourraient faire aussi que les comparables prix, c'est des comparables qui ont été en surenchère, puis avec des grosses valeurs supplémentaires. Ça, je pense que ça pourrait être contestable ou dire, ben, écoutez, vos analyses de l'époque, c'est des comparables vraiment avec des valeurs trop élevées.
Exactement. Ça pourrait être un cas où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une propriété qui sortait du lot, qui, dont le contexte, lorsqu'on procède à notre enquête, n'est pas représentatif à 100% du contexte de marché dans lequel on était au 1er juillet 2021 dans ce cas-ci. Donc ça peut jouer. Ça peut être, par exemple, le fait qu'il y a des travaux très importants qui doivent être effectués sur la propriété. Comme je disais, les villes n'ont pas des yeux 24/7 mm-hmm. sur chacun des biens immobiliers. Donc, si votre toiture est à refaire, ça coule, il y a de l'infiltration, bien ça peut être considéré comme une réduction au niveau du rôle d'évaluation comme travaux urgents. Puis, l'autre élément aussi, ça concerne plus les immeubles à revenus, mais je pense que c'est important de le savoir. Les villes vont envoyer systématiquement ce qu'on va appeler, nous, des enquêtes économiques auprès des propriétaires à peu près 6 mois à 1 an avant le dépôt d'un nouveau rôle, dans lequel il va vous être demandé de inscrire vos revenus, vos dépenses liées à votre immeuble et tout ça. C'est bien évident que si vous répondez pas à l'enquête économique, ben la ville, elle n'a pas le choix de mettre une valeur, donc elle va normaliser et elle va appliquer at large du marchand, que ce soit pour les loyers. Ils vont estimer, disons, que si vous avez un local commercial, notre secteur-là, c'est 25$ du pied, on met 25$ du pied, ils normalisent toutes les dépenses, ça donne une valeur X à la fin. Bien, ça se peut très bien que ça soit aucunement représentatif de votre immeuble. Si vous avez un bail contractuel dans votre local commercial qui est à 20$ du pied au lieu du 25 marchand, bien, c'est évident que ça a un impact sur votre valeur et que ça devrait être considéré au rôle d'évaluation. Bien, si vous n'avez pas fourni de l'information à la ville pour qu'elle considère, bien, elle a un travail à faire, puis elle va le faire. Donc, vous allez probablement vous retrouver dans une situation de surévaluation.
Puis au niveau de la taxation, puis au niveau du rôle d'évaluation, tu as dit tantôt que les évaluateurs devaient se présenter sur place, voir les différents matériaux, les composantes, etc. Mais tu sais, souvent, c'est une visite qui va prendre entre 10 et 15 minutes. Souvent, tu sais, c'est de la céramique 12-24, de la céramique 24-24 ou de la 13-13 ou de la 12-12. Tu sais, les gens vont dire « Ah, mais c'est de la céramique, ah, c'est du bois franc. » Mais des fois, tu sais, d'avoir des matériaux, au lieu que ça soit de la céramique, que ça soit du travertin, peut-être que l'évaluateur ne prendra pas en considération les matériaux haut de gamme ou, tu sais, des fois du jatoba au niveau du bois ou ce que, tu sais, ça a une valeur beaucoup plus considérable que du merisier qu'on va acheter chez Canac. Tu sais, est-ce que les évaluateurs de la ville ne prennent pas nécessairement en considération aussi la qualité des matériaux qui vont être utilisés à l'intérieur des propriétés?
En fait, les évaluateurs municipaux sont régis parce que nous, ce qui est appelé la fiche paramétrique modernisée, donc qui est prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, ils ont des cases, c'est pour assurer une uniformité à travers la province, donc ils ont des cases prédéterminées à remplir avec des listes de matériaux très précis. Donc, dans le contexte où on a des matériaux qui sont très spécifiques, habituellement, ils vont essayer d'aller chercher un matériau de qualité qu'ils vont juger équivalent ou sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer sur ce qu'on appelle la classe. Donc, en fait, les classes au niveau des immeubles, ça peut aller de 1 à 7. 7 étant votre propriété est sur le bord de tomber à terre, vous avez 45, ça va pas bien. Puis la classe 1, c'est que vous êtes plaqué or à la grandeur dans votre immeuble. En moyenne, là, la majorité du bassin immobilier va se situer sur une classe 5, qui est une classe standard et tout ça. Donc, si on a des matériaux qui sont très, très haut de gamme, l'évaluateur municipal peut venir jouer sur l'aspect classe et rehausser votre propriété sur une classe 3 ou une classe 4. Donc, ça vient augmenter là, par défaut.
Puis plus que la classe diminue, meilleure est la valeur de la propriété ou c'est l'inverse?
C'est l'inverse. Donc, quand on est sur une classe 1, comme je disais, c'est vous êtes plaqué or, vous êtes exceptionnel par rapport au marché.
Puis l'autre chose aussi, là, c'est que les rôles d'évaluation en date d'aujourd'hui peuvent avoir des impacts majeurs pour les investisseurs. On parle de multilogement. On a des augmentations de 30% au niveau des taxes pour l'année prochaine, ce qui fait en sorte que les revenus actuels ne seront pas, même si c'est des revenus normalisés ou stabilisés, ne seront pas suffisants pour absorber cette hausse de taxation-là. Fait que là, tu sais, ça vient compresser la valeur de l'immeuble aussi parce que, tu sais, on vient d'augmenter considérablement puis peut-être même doubler les valeurs là, de dépenses qu'on avait initialement parce que c'est un gros poste de dépenses. Les taxes, on considère quasiment que c'est le tiers des dépenses qui vont être considérées là. Puis si on double le tiers, fait qu'on devient aux deux tiers, on devient avec une grosse dépense. C'est quoi un peu ta vision des investisseurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs actuellement qui, eux autres, contestent absolument les rôles pour s'assurer que les revenus vont être suffisants pour payer les dépenses et les augmentations? Parce que ça va faire un certain clash tantôt, là.
Ça dépend vraiment. Et encore une fois, c'est jamais ni noir ni blanc. Il y a toujours plusieurs paramètres à regarder. Parce que, comme on le mentionnait tantôt, l'évaluation municipale, c'est pas la taxation. Donc, normalement, avec un nouveau rôle, si une catégorie d'actifs a augmenté de 30 %, les taxes ne vont pas systématiquement augmenter de 30 %. Les villes vont venir balancer en fonction des moyennes d'augmentation. C'est certain que si un actif en particulier a augmenté plus que la moyenne dans son marché, donc si la moyenne d'augmentation des multis était de 30 % et que notre propriété augmente à 35, oui, on peut s'attendre à une hausse à ce moment-là de la taxation puisqu'on notre propriété a pris plus que la valeur moyenne du parc de référence. Mais si on est dans la moyenne, on peut s'attendre à ce que notre dépense en taxe soit assez similaire en fait par rapport à l'année antérieure, donc pas nécessairement de gros clash. Puis, l'autre élément qui va être intéressant de suivre aussi, puis en matière d'inflation, c'est ça va être quoi les paramètres qui vont être autorisés par le nouveau TAL, qui était anciennement la Régie du logement, là, mais le Tribunal administratif du logement. Quelle augmentation va être prescrite l'an prochain en fonction de l'inflation par le TAL? Ça, c'est pour les immeubles existants de plus de 5 ans, mais si on est dans un immeuble existant de moins de 5 ans, bien évidemment, c'est plus facile pour le propriétaire d'absorber et de refiler directement la facture dans ses hausses de loyer.
Mais tu sais, avec le temps, habituellement, on se retrouve souvent avec du 1,9, tu sais, des fois 2, mais là, tu sais, je serais étonné qu'il y ait à 7 %. Tu sais, on en parlait, 6,9, là, les taux d'inflation actuels, c'est quand même complètement fou. Roxane, on sait que tu connais ton sujet, on sait que tu connais vraiment ça. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir accès à toi pour te poser nos questions parce que on a des questions jour après jour par rapport à ça. Puis même nous, dans le marché, les gens posent des questions. Puis tu me ramènes aussi sur la valeur du rôle versus la taxation, mais la valeur uniformisée, généralement, va toujours suivre à la hausse. C'est rare que les municipalités vont donner toujours un break. Souvent la première année, mais ils vont aller se rechercher souvent sur la deuxième. Vous désirez avoir plus d'informations, il faut rester avec nous, là, parce qu'après, dans le prochain segment, on va parler des différents marchés commerciaux, multilogements, industriels aussi. Puis on va parler d'immobilier. Merci, Roxane.
CJMD, l'alternative radio.
Auto, motocross, motoneige, VTT et autres véhicules. LBBauto.com.
Ah. 1 million en inventaire, 1000 sortes de bières, 365 jours, 7 jours semaine, 3 succursales, 2 chambres froides incroyables, juste un nom, Accommodation Chaloux, avec vous depuis 3 générations.
G-Barbecue, partout, chez vous, avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement au charbon.
Pour un party clé en main.
Événement Noël en famille ou juste entre amis. Réserve maintenant. G-Barbecue.ca 418-809-6614.
Le bingo de CJMD, plus interactif, plus divertissant
et plus payant.
De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière avec Sylvie Bougie de Vigie Service juridique et bien sûr Jean-François Morin de Nous vendons votre maison, équipe Jean-François Morin. On est aujourd'hui avec Roxane Carrier. C'est vraiment intéressant, le temps file, donc associée vice-présidente de GDA Services immobiliers intégrés.
Yes, puis écoute, on a parlé d'évaluation municipale juste avant ce segment-ci, mais une des choses qu'on veut savoir, c'est comment que le marché se comporte. En date d'aujourd'hui, on parle mois de novembre 2022, tu sais, on prévoit une nouvelle hausse directeur au mois de décembre. On a eu un taux directeur au mois de mars à 0,25, on est rendu à 3,5. Écoute, il y a quand même un gros écart qui s'est fait en une très courte période. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu des tendances, puis comment que le marché se comporte pour le multilogement, pour le commercial, puis pour l'industriel. Commençons par le multi.
Oui, donc on le mentionnait, on est dans un marché en ce moment qui bouge très rapidement avec l'augmentation des taux d'intérêt. Je vais même te corriger, on est rendu à 3,75. Hein? Mais ça fait une augmentation en fait de 350 points de base depuis le mois de mars dernier. Donc c'est une augmentation là, qui est assez fulgurante là, du taux directeur, là, dont pour endiguer en fait l'inflation, c'est donc dans la mission là, de la Banque du Canada. Bref, trêve de capsule économique. Au niveau du marché du multirésidentiel, avec la hausse des taux d'intérêt, on en parlait d'entrée de jeu dans l'émission, les taux globaux d'actualisation, d'un point de vue purement théorique, découlent entre autres des taux d'intérêt, des rendements espérés et tout ça. Donc, dans le contexte que l'on vit, on commence à revoir une hausse des taux d'actualisation là, dans le multirésidentiel, alors que pour des actifs qu'on pourrait qualifier de prime ou trophy assets, quelque part comme en mars dernier, où est-ce qu'on était vraiment au pic des valeurs, ben là, on pouvait avoir là, des TGA peut-être à 4,15. Mais là, on est un peu plus là, sur du 40 points de base de plus, 25 à 40 points de base de plus là, pour la même catégorie d'actifs. Ou est-ce qu'on va peut-être se situer un peu plus sur du 4,45, 4,50 pour le même actif?
Puis là, on parle de prime, là, t'sais, un immeuble là, qui est stabilisé, une construction récente, t'sais, avec
structure des... Structure de béton, bonne localisation, là, vraiment là, un type d'actif là, qui va être recherché habituellement pour les gros investisseurs ou même les institutionnels qui sont à la recherche vraiment d'un rendement sur le long terme là, avec des cash flows.
Parfait. Puis si on y va, par exemple, sur des immeubles qui sont peut-être un 6 à 12 logements, région de Québec, tu sais, quelques logements rénovés, mais peut-être pas remis à 100% au goût du jour, est-ce qu'on a un taux qui peut ressembler à 4,5 aussi ou on va se retrouver plus proche du 5?
On va se retrouver un peu plus proche du 5. Puis l'élément à considérer aussi, toujours en évaluation, c'est quel est le potentiel d'optimisation des revenus de l'immeuble sujet. Donc, s'il y a un fort potentiel d'optimisation des revenus en matière de rénovation ou de conversion, par exemple, de système de chauffage, bien, à ce moment-là, on peut aller chercher des TGA qui vont être un petit peu plus faibles pour considérer l'augmentation potentielle des revenus, peut-être à 4,80, par exemple. Alors que si on a un immeuble qui, lui, est déjà optimisé, donc ça va être très difficile d'aller chercher des revenus supplémentaires, bien là, effectivement, on est plus proche là, du 5. Puis dans un avenir à court, moyen terme, on ne voit pas de ralentissement nécessairement de la hausse des taux. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le marché continue de réagir avec une hausse des taux d'actualisation.
OK. Fait que, tu sais, là, présentement, on pourrait se retrouver à 5,25 avec un immeuble plus ou moins optimisé. Tu penses que ça pourrait peut-être conserver une certaine hausse, mais pour le moment, c'est pas ce qu'on ressent dans le marché. Là. Les banques sont encore willing à financer puis refinancer avec ces taux-là. Là.
Sont encore willing, mais ce qu'on va observer aussi, c'est que les institutions financières, ces temps-ci, vont exiger des mises de fonds plus importantes auprès des investisseurs qu'auparavant. Donc, les banques sont un peu plus frileuses et il y a une perception du risque qui est plus élevée dans la conjoncture économique actuelle. Donc, ça va arriver même qu'on entend là, des fois du 30-40% de mise de fonds ces jours-ci.
Puis ça, tu as raison, parce que je l'ai vécu récemment sur différents immeubles dans Montcalm. On avait, au mois de mars, une super belle valeur. Puis, tu sais, le multirésidentiel étant ce qu'il est, les délais, le financement, etc., arrivent les hausses. Mais on était rendu à 47% de demande. Fait que c'est sûr et certain que la banque, elle, peut conserver quand même son TGA à 5,25, 4,75, mais d'un autre côté, assume leur risque en demandant une plus grande mise de fonds pour permettre justement d'avoir... à prendre le moins de risques possible.
Exactement,
aussi.
Parce que les banques, ce qu'ils vont regarder, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon les KPI, fait que les indicateurs là, clés
de performance
au niveau financier. Puis, en ce moment, les banques vont l'exiger pour respecter les ratios de couverture de dette. Donc, en raison de la hausse des taux d'intérêt, eux autres, ils doivent s'assurer que les revenus qui sont générés par l'immeuble permettent au propriétaire de couvrir sa dette. Ce pourquoi ils vont exiger des mises de fonds plus élevées.
Exact. Pour s'assurer d'avoir le 1,1 ou le 1,3 selon le type d'immeuble, selon le 1,25, on peut challenger des fois
oui.
Pour avoir des meilleurs ratios de couverture de dette. Le milieu commercial, tu sais, On a plusieurs craintes. On dit, écoute, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont eu dur avec la COVID. Il y a les restaurateurs qui ont trouvé ça dur. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté d'avoir des employés. On voit des commerces qui ne sont pas ouverts le soir, qui ne sont pas ouverts de jour. Puis il y a des fois que c'était des commerces qui étaient 24 heures. Fait que tu sais, c'est quoi les tendances qu'on voit actuellement? Tu sais, est-ce qu'il va y avoir... le télétravail amène son lot de défis aussi. Il y a des gens en télétravail qui font en sorte qu'on a peut-être plus besoin d'autant d'espace à bureau. C'est comment que le marché commercial se comporte actuellement?
Le marché commercial est très polarisé depuis la pandémie. Là, quand on regarde du côté plus retail et tout ça, ben c'est évident que si je parle des centres commerciaux, par exemple, ben, les gros centres commerciaux régionaux, là, comme Place Laurier, par exemple, ont perdu à peu près la moitié là, de sa valeur depuis la pandémie, en raison là, de départ de gros joueurs, en raison des baisses de revenus attribuables aux fermetures, aux concessions qui ont été faites par les propriétaires pour convertir, par exemple, des baux nets en baux à pourcentage, des choses comme ça. Puis alors que certains autres centres commerciaux qu'on va appeler les strips, où est-ce qu'on est plus sur une offre de services de commodité dans un quartier, où est-ce qu'on va avoir en moyenne une épicerie, une pharmacie, des services vraiment là, de proximité, une SAQ, mais ça, cette catégorie d'actifs-là performe excessivement bien là, depuis la pandémie parce que chaque commerce bénéficie d'une porte extérieure. Il n'y a plus l'enjeu là, du mail intérieur qui était fermé là, lors de la pandémie. Le fait que ce soit des commerces de proximité, c'est des locataires qui habituellement sont assez solides du point de vue financier. Donc ça, ces actifs-là vont très bien, même au niveau de la restauration. La restauration rapide pour certains joueurs ont augmenté, voire doublé leur chiffre d'affaires avec les services au volant puis les services de livraison. Ça a été excessivement populaire. Puis d'ailleurs, il y a une chaîne de restauration rapide qui maintenant n'ouvre plus nécessairement leur salle à manger. Ils ne misent plus du tout là-dessus. Ils vont miser sur les services au volant. Ils vont ajouter 1, 2, 3, 4 lignes de services au volant parce que c'est là que la business va, puis là, c'est là que ça roule. Donc, c'est des business qui sont très solides. Tandis que la restauration avec les services aux tables, ben là, c'est un peu plus précaire. Effectivement, on a des enjeux d'employés. On a des enjeux qui sont liés à la pandémie, tout ça. Donc, ça, c'est un peu plus précaire. Donc ça, c'est vraiment au niveau plus commercial.
Puis, j'avais quand même des questions aussi, là, parce que tu sais, qu'est-ce que tu disais pour les restos rapides? Là, j'ai un client justement là, qui est propriétaire de plusieurs autres immeubles de restos rapides, puis il me disait qu'il faisait sensiblement toujours le même chiffre d'affaires qu'il faisait avant, avec moins d'employés, moins de staff, moins de gestion, moins de ci, moins de ça. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant. Puis il y a aussi là tout ce qui est des impacts majeurs qu'on peut retrouver pour le commercial. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu peux voir ou tu sais des craintes que les investisseurs peuvent avoir?
Pas nécessairement, mais comme je mentionnais d'entrée de jeu, c'est polarisé. Mm-hmm. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple des chaînes de restauration rapide, ben les TGA, ils continuent de diminuer dans ce créneau-là spécifique, alors que pour les actifs comme un Place Laurier de ce monde ou les centres commerciaux régionaux, ben là, on revoit une hausse des taux d'actualisation, où est-ce qu'à une époque on pouvait transiger ce type d'actifs-là pour du 6,5, bien là, on est revenu peut-être à du 7,25 de TGA, là, parce que la perception du risque, c'est que c'est beaucoup plus risqué comme actif maintenant.
Puis au niveau de l'industriel, est-ce que c'est un créneau actif? Qu'est-ce qui se passe avec l'industriel actuellement?
L'industriel est en feu. Il est en feu partout au Québec, autant à Québec qu'à Montréal. C'est causé, entre autres, là, par une pénurie. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres là, sur le marché industriel. Il y a une rareté des terrains. Ça a une influence, évidemment, à la hausse là, sur les prix de vente. On voit encore là, une compression là, des TGA dans le marché industriel. Il y a encore de la marge dans le marché de Québec là, pour une baisse là, des TGA. On est encore loin du marché de Montréal où est-ce que parfois on peut voir des TGA à 3,75 dans l'industriel. À Québec, en moyenne, on va dire qu'on est peut-être encore dans le 5,25-5,5. Certains actifs plus prestigieux, on va être un peu plus bas. Mais il y a encore de la place par rapport au marché de Montréal dans la compression des TGA. Puis ça, c'est dû au potentiel aussi d'augmentation des revenus. Parce qu'on disait, il y a peu d'offres, il y a peu de disponibilité au niveau des terrains, peu de disponibilité au niveau des locaux. Ça a amené une pression à la hausse assez importante sur les loyers industriels. Donc, des locaux de 150 000 pieds carrés qui se payaient à 5-6 du pied à Québec, bien, bonne chance pour en trouver. C'est très difficile. Maintenant, on voit là, facilement du 10 $ le pied carré plus. Même certains secteurs, certains locaux, on peut louer ça quasiment pour l'équivalent de bureaux de classé à 16-20 piastres du pied en industriel.
Quand même, hein?
C'est vraiment, vraiment fou. Puis, tu sais, on va de plus en plus en périphérie des centres, là. Fait que, tu sais, on se retrouve à Saint-Apollinaire, on se retrouve à Beauceville, on se retrouve à Saint-Anselme, où ce qu'eux autres aussi développent leur parc industriel. Il y a les enjeux des municipalités, ben des fois, la ligne est claire. Tu sais, Québec, ils ont dit qu'ils n'ouvraient plus aucun terrain où ils n'allaient pas couper un arbre pour faire des terrains industriels. Puis là, arrive le privé dans ça, où ce que il y a certains promoteurs privés qui vont acheter des lots de terrain, qui vont travailler en partenariat avec la municipalité pour amener un nouveau changement par rapport au zonage, pour amener un nouveau parc, etc. Puis on le voit ça dans le marché actuellement?
Oui, absolument. Donc, à Québec, le marché du parc industriel, si on peut dire, ou du développement industriel a été repris par certains joueurs privés, des gros joueurs de Québec, dont on avait entre autres le groupe Dallaire qui a développé l'espace d'innovation Chauveau, où est-ce qu'on retrouve entre autres le méga centre de distribution Simons. Puis il y a d'autres investisseurs aussi majeurs là, qui se lancent dans le même type de projet. Donc, il y a ImmoStar qui vient d'acquérir plusieurs millions de pieds carrés de terrain en arrière de l'aéroport de Québec au fait de développement là, d'un nouveau parc industriel aussi.
Quand même fou, hein? On sait vers là qu'on s'en va. Fait que tu sais, d'avoir des partenaires d'affaires évaluateurs agréés qui sont connectés sur le marché, ils connaissent ces projets-là, ils connaissent les nouvelles valeurs, vont connaître le prix quasiment au pied carré de comment que ça va se vendre les terrains. Fait que c'est super important de rester connecté. Si on veut rester connecté avec toi, Roxane, de quelle façon qu'on peut le faire?
Eh bien, toujours moyen d'appeler directement au bureau de GDA Services Immobiliers. On a également notre page Facebook, notre page LinkedIn. Vous allez également me trouver mon propre profil sur LinkedIn.
Quand même, écoute, je te remercie infiniment. On aurait pu en parler pendant des heures de tous nos sujets au niveau de l'évaluation.
Oui, le temps a filé, c'était vraiment intéressant. On voit que tu maîtrises vraiment ton sujet et oui, j'invite les auditeurs à te contacter. Là. Vraiment, vraiment intéressant.
Exact, puis une des choses qui est super importante, on a commencé à créer du bonus content sur nos différentes plateformes. Restez à l'écoute pour écouter notre bonus content. Je te remercie infiniment d'avoir été présente avec nous. Si on veut des informations, c'est GDA Services Immobiliers Intégrés. Super simple. Ne manquez pas le bingo. Demain, dimanche, 3h, 150 000 $ déjà remis. Puis je pense que...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.